La première fois que j'ai vu le film « Les Dix Commandements », il m'a fortement impressionné. Mais quand on lit le récit de l'Exode, on se rend compte que le metteur en scène n'a pas saisi la subtilité du texte. Ainsi, pour les 5 premières plaies d'Égypte, Moïse rapporte que Pharaon s'obstine en refusant de libérer les Hébreux. Mais à partir de la 6e plaie, on a un changement brusque car il est écrit « L'Éternel fit que le Pharaon s'obstine. C'est fini. Dieu ne lui tend plus la perche parce qu'il a dépassé le point de non-retour. Sa patience est arrivée à son terme. » La possibilité de se repentir est désormais révolue et c'est place au jugement. Je continue de lire dans le chapitre 29 du livre d'Ésaïe en compressant le texte. « Étonnez-vous et soyez stupéfaits. Aveuglez-vous et restez aveugles. Soyez tous ivres, mais pas de vin, et chancelez, mais non d'avoir trop bu. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur. Il a bouché vos yeux. » Il s'agit des prophètes. Il a voilé vos têtes, vous qui recevez des révélations. Il s'agit d'hommes qui ont des révélations. Étonnez-vous et soyez stupéfaits. Aveuglez-vous et restez aveugles. Enivrez-vous, mais pas de vin. Et chancelez, mais non d'avoir trop bu. Toutes les révélations sont devenues pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé. Donnez-le à un homme qui a appris à lire en le disant. « Lis cela, s'il te plaît. » Et il vous répondra, « Je ne peux pas le lire, le rouleau est scellé. » Donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire, en lui disant, « Lis cela, s'il te plaît. » Et il vous répondra, « Moi, je ne sais pas lire. » Ésaïe 29, les versets 9 à 12, comparé avec Ésaïe 22, les versets 1 à 14. Le verbe « « Étonnez-vous, aveuglez-vous, enivrez-vous » sont à la forme réfléchie, ce qui suggère que l'aveuglement est la conséquence d'un jugement. Une incrédulité obstinée produit son propre châtiment. Ceux qui savent lire sont les prêtres et les prophètes. Alors, s'ils ne comprennent pas la prophétie d'Ésaïe, ce n'est pas par manque de connaissances, mais parce que leur incrédulité en voile le sens divin. Quant au commun du peuple, il est ignorant et accueille le discours du prophète avec un manque de foi mêlé de surprise, ce qui fait qu'il refuse d'accepter que Jérusalem sera humiliée avant d'être miraculeusement délivrée. Parce que du plus grand au plus petit, les Israélites ont délibérément choisi de ne pas mettre leur foi en l'Éternel. Les prédications de ces véritables prophètes sont comme un message scellé, inintelligible, et un livre qu'ils ne peuvent pas lire. Par contre, la grande majorité du peuple semble vouloir suivre les faux prophètes et les visionnaires trompeurs. Alors, Ésaïe annonce que Dieu va les frapper d'un aveuglement supplémentaire, ce qui est aussi arrivé au Pharaon, comme je l'ai déjà expliqué. Aujourd'hui, la quasi-totalité des gens disent qu'ils n'ont pas le temps d'étudier les Écritures, ou bien qu'il peut leur faire dire ce qu'on veut, et d'autres excuses encore. Cette attitude est dangereuse, car celui qui ferme ainsi son cœur à la parole de Dieu court le risque d'être frappé d'aveuglement spirituel. Et alors, il croira vraiment n'importe quoi. Je continue le texte. Le Seigneur dit en cœur, « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend dommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de leur cœur, il est bien loin de moi, et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. » Ésaïe 29, verset 13. Quand Ésaïe dit ces paroles, le peuple se rend régulièrement au temple qui est plein à craquer. Seulement ces gens sont incrédules et aveugles sur leur véritable condition spirituelle. Le culte qu'ils offrent à Dieu est un formalisme sans réelle piété. Ils ont bien accepté les réformes engagées par le roi Ézéchias, mais sans gaieté de cœur. Ce passage a été cité par Jésus selon l'ancienne version grecque, à propos de la superficialité du culte juif de son temps. Donc, un peu plus de 7 siècles après Ésaïe, ce qui confirme l'adage « plus ça change et plus c'est la même chose ». Depuis la nuit des temps, des multitudes célèbrent un culte à leur Dieu et suivent les rites prescrits par leurs croyances. Mais ces pratiques n'ont pas le moindre mérite, parce que par nature, l'homme étant religieux, il ne fait que suivre ce qu'il est. L'important est d'avoir une relation personnelle avec son Créateur, ce qui ne peut se faire que par le biais de Jésus-Christ, car il est le seul chemin qui mène à Dieu. Ensuite seulement, le culte avec certains rituels revêt un sens. Je continue. À cause de cela, j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges, des actes extraordinaires. La sagesse des sages sera anéantie. L'intelligence fera défaut à ses intelligents. Ésaïe 29, verset 14. Ce passage est cité par l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Alors que les grands de la cour ont réussi à convaincre le roi de faire alliance avec l'Égypte pour les protéger des Assyriens, l'Éternel va envoyer contre eux la toute-puissante armée assyrienne. Et ils verront alors que toutes les magouilles ne servent à rien et ne les sauveront pas, car l'Égypte ne bougera pas le petit doigt pour les secourir, et le salut de Jérusalem sera uniquement dû à un prodige que le Seigneur accomplira in extremis. Je continue. Malheur à ceux qui s'ingénient à cacher leurs desseins à l'Éternel et dont les entreprises se font dans les ténèbres, à ceux qui disent « Qui peut nous voir ? Qui nous remarque ? Allez-vous inverser les rôles ? Allez-vous prendre le potier pour l'argile ? Pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait « Je ne suis pas ton œuvre » et que le pot affirme au potier qui l'a façonné « Tu ne sais pas ce que tu fais » Ésaïe 29, les versets 15 et 16. Ésaïe annonce la ruine de ceux qui poursuivent en secret des projets contraires à la volonté de Dieu. L'image du potier est souvent utilisée par les prophètes pour rappeler que le vase ne peut, raisonnablement pas, se considérer comme l'égal à celui qui l'a fait. La créature est dépendante et inférieure à son créateur. Ce blâme du prophète concerne alors l'alliance avec l'Égypte, une faute grave sur laquelle il revient une nouvelle fois dans le prochain chapitre. Comme les grands de Jérusalem savent qu'Ésaïe est fortement opposé à ce projet, ils conspirent en secret contre lui. Mais c'est totalement insensé que de penser un seul instant pouvoir faire quoi que ce soit à l'insu de Dieu. Je continue de lire dans le chapitre 29 d'Ésaïe. Encore un peu de temps, et le Liban sera transformé en verger, et le verger sera semblable à la forêt. En ce jour-là, les sourds même entendront les paroles du livret, sortant des ténèbres et de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. Ésaïe 29, les versets 17 et 18. Dans le lointain avenir, quand le Seigneur établira le millénium, on assistera à un renversement des rôles entre les puissants et les faibles. L'aveuglement spirituel d'Israël prendra fin et son changement moral sera aussi grand qu'une transformation du Liban en verger, alors que ce pays est normalement couvert de forêts. Matthieu rapporte que Jésus a cité ces paroles en les appliquant à la guérison physique des sourds et des aveugles. Je continue. Oui, grâce à l'Éternel, les humbles se réjouiront de plus en plus. Les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au sein d'Israël, car les tyrans auront tous disparu et les moqueurs ne seront plus, et tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal seront illuminés. Ceux qui condamnent les gens par leurs paroles, ceux qui tendent des pièges aux juges dans les tribunaux, ceux qui perdent le juste sans aucune raison. Oui, tous disparaîtront. Ésaïe 29, les versets 19 à 21. Pendant le millénium, La détresse des opprimés se changera en réjouissance, et la domination des despotes de tout ordre cessera. Les perversions et la corruption prendra fin. Et les politiciens et les juges ne pourront plus abuser de leur pouvoir comme c'est le cas aujourd'hui. Je finis le chapitre 29. C'est pourquoi l'Éternel qui a racheté Abraham dit à la communauté de Jacob. Jacob n'aura plus honte, désormais, et son visage n'aura plus à pâlir. Lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux, ils me reconnaîtront pour Dieu. Ils me vénéreront comme étant le saint de Jacob. Ils me redouteront, moi, le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égare apprendront la sagesse, et ceux qui sont mécontents recevront instruction. Ésaïe 29, les versets 22 à 24. Dans cette conclusion de l'oracle, Ésaïe annonce que le peuple choisi retournera un jour à l'Éternel, tout comme Abraham est sorti du paganisme et a placé sa foi en l'Éternel. Au cours de son histoire mouvementée, à cause de son incrédulité et de son idolâtrie persistante, Israël a souvent fait rougir de honte ses ancêtres qui avaient une foi vivante en l'Éternel. Dieu a sévèrement puni son peuple, et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, avec ses couches de villes les unes sur les autres, Jérusalem ressemble à une génoise. Mais un jour, elle sera la ville du Messie, le grand roi et le Seigneur des seigneurs, et le peuple d'Israël sera alors fidèle à son Dieu. Nous arrivons au chapitre 30, qui est le second discours du prophète contre l'alliance de Juda avec l'Égypte. Ce projet d'abord tenu secret est maintenant en voie d'exécution, puisque les ambassadeurs d'Israël sont en route pour l'Égypte. Je commence de lire le chapitre 30. Malheur aux fils rebelles, déclare l'Éternel, qui forment des projets où je n'ai pas de part, qui conclut des traités contre ma volonté pour ajouter ainsi un péché à un autre. Ils s'en vont en Égypte, sans m'avoir consulté pour le mettre en sécurité auprès de Pharaon, et pour chercher refuge à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon sera sujet de honte. Le refuge que vous cherchez à l'ombre de l'Égypte vous plongera dans une grande confusion. Ésaïe 30, les versets 1 à 3. L'Éternel est furieux contre son peuple parce que ses dirigeants agissent contre sa volonté en retournant en Égypte. Et en plus, ils sont stupides de s'allier avec un pays en plein déclin qui a déjà subi une cuisante défaite contre la Syrie. Je continue. Oui, vos ministres sont déjà à Tsoan et vos ambassadeurs parviennent à Annès. Mais tous seront honteux à cause de ce peuple. Il ne leur sera d'aucun aide, d'aucun secours, d'aucune utilité, mais il fera leur honte et leur fera perdre la face. Ésaïe 30, les versets 4 et 5. C'est pure folie de la part de Juda de ne pas se confier en l'Éternel et de chercher la pluie d'une puissance qui ne lui sera d'aucun secours. Les émissaires du roi vont bon train d'une ville à l'autre en Égypte. Tsoan, ou Tanis, est la plus grande ville du nord de l'Égypte et la plus proche d'Israël. Située à l'est du delta du Nil, ce fut la capitale de la 25e dynastie. Annès, plus tard, Héraclopolis, se trouve à 100 kilomètres au sud du Caire, sur une île du Nil, dans l'Égypte, dite moyenne. Je continue. Menace au sujet des bêtes du Négev. À travers un pays de détresse et d'angoisse, dans le pays du lion, oui, du lion rugissant, dans le pays de la vipère et du serpent volant, ils portent leurs richesses sur l'échine des ânes et leurs trésors sur le dos des chameaux, en cadeau à un peuple qui ne peut rien pour eux. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Ésaïe 30, les versets 6 et 7. La dernière phrase est littéralement « vantardise, eux restés assis ». Ce qui peut aussi être rendu par « dragon du papier ». Les Égyptiens font étalage de leur puissance, mais quand Juda sera attaqué, ils ne bougeront pas. Les Israélites des 10 tribus viennent juste d'en faire la mère expérience. L'alliance conclue par le roi Osée avec l'Égypte n'a pas empêché le royaume du Nord d'être effacé de la carte. Ésaïe dénonce, avec ironie, le piètre spectacle des ambassadeurs judéens qui sont prêts à tous les sacrifices pour acheter au prix fort une alliance de néant avec l'Égypte. Et de plus, ils doivent traverser le désert du Négev, un lieu inhospitalier qui grouille de bêtes sauvages. Je continue. « Viens maintenant, grave cela en leur présence sur une tablette. Inscris-le sur un document afin que cela serve de témoin pour les jours à venir. Et à toujours, car c'est un peuple révolté, ce sont des fils trompeurs et qui refusent d'écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux prophètes, « Ne prophétisez pas !» Et à ceux qui ont des révélations, « Cessez de nous servir les révélations vraies. Annoncez-nous des choses agréables, que vos révélations nous bercent d'illusions. » Sortez des bons chemins, quittez les sentiers droits, cessez de nous importuner avec le Saint Dieu d'Israël. Ésaïe 30, les versets 8 à 11. Le peuple incrédule en a marre d'entendre constamment les mêmes refrains, les mêmes exhortations d'Ésaïe. Alors, ce dernier décide d'écrire sa prophétie afin que, qu'au moment de son accomplissement, tout le monde sera obligé de reconnaître qu'il avait parlé de la part de l'Éternel. Je continue le texte en compressant. Par conséquent, voici ce que déclare le Dieu d'Israël. Puisque vous méprisez cet avertissement et que vous vous confiez à la violence et aux intrigues, que vous comptez dessus à cause de cela, ce péché deviendra pour vous comme une brèche dans un mur élevé. Un renflement y apparaît, et puis, soudain, le voilà qui s'écroule. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, et vous avez dit, « Non, nous fuirons à cheval. » Eh bien, oui, vous fuirez. Il ne subsistera que quelques rescapés qui seront comme un bât en haut d'une montagne et comme une bannière au sommet d'un coteau. Ésaïe 30, les versets 12 à 17. Quand une lézarde se forme dans un barrage, tôt ou tard, il finit par se fissurer et toute la vallée est noyée. Au lieu d'invoquer l'Éternel, les Judéens se confient à la violence, c'est-à-dire qu'ils font des préparatifs militaires et magouillent avec l'Égypte. Cette désobéissance au traité d'alliance de la loi est la fissure qui va entraîner la ruine de Juda. Ésaïe voit plus loin que la menace assyrienne et aperçoit déjà la fin de la nation et l'exil à Babylone, d'où seule une poignée d'Israélites décrits comme un mât et une bannière reviendront. Je continue de lire dans le chapitre 30 en compressant. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce, et il se lèvera pour vous manifester sa compassion. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ô peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras pas. Car Dieu te fera grâce quand tu crieras « Hé !» lorsqu'il t'entendra. Il répondra à ton appel. Alors tu entendras dire derrière toi « C'est ici le chemin, suis-le, là, va à droite, là, va à gauche, tu tiendras pour souiller le plaquage d'argent recouvrant tes idoles, le revêtement d'or qui orne tes statues. Tu les rejetteras comme une chose impure, tu diras « Hors d'ici !» Ésaïe 30, les versets 8 à 22. Ésaïe télescope l'avenir de Juda jusqu'à son retour de l'exil babylonien duquel, dans un premier temps, seulement 50 000 colons et leurs familles reviendront. L'Éternel est un Dieu juste qui doit juger la masse du peuple endurci, mais il n'y prend aucun plaisir. Ce qu'il aime faire, c'est exercer la miséricorde. Il fera donc grâce à Jérusalem qui ne tombera pas aux mains des Assyriens. Suite à tous ces châtiments, un petit reste aura les yeux ouverts sur le bien fondé des messages des prophètes et se tournera vers l'Éternel. Ses croyants seront comme les brebis que le berger conduit. Après l'exil, l'idolâtrie disparut en grande partie d'Israël. Je continue en compressant. « Et Dieu accorda la pluie à la semence que tu mettras en terre. » Aussi, la nourriture que produira la terre sera très riche et savoureuse, et ton bétail, en ce temps-là, paîtra dans de vastes prairies. Au jour du grand massacre, où les tours fortes tomberont, il y aura partout sur les hautes montagnes, sur toute colline élevée, des cours d'eau abondants. La lune brillera du même éclat que le soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive. Elle sera pareille à la lumière de 7 jours, au jour où l'Éternel pansera les plaies de son peuple, où il guérira les blessures entraînées par les coups qu'ils ont reçus. Ésaïe 30, les versets 23 à 26. Après les guerres sanglantes de la fin de la grande tribulation, les puissants ennemis d'Israël seront anéantis et les rescapés entreront dans le millénium. Alors, la terre connaîtra une abondance extraordinaire. Cette époque de paix et de prospérité clôturera l'histoire de l'humanité et la nature, affranchie de souffrances et de dévastation, sera élevée à un niveau de vie et de félicité qui n'a encore jamais été. Je finis de lire le chapitre 30 en compressant. L'Éternel en personne va venir d'un pays lointain. Sa colère est ardente. Oui, c'est un nuage oppressant. Il va passer le peuple au crible destructeur. Cependant, parmi vous retentiront des chants comme en la nuit de fête, et vous vous réjouirez comme celui qui monte au son des flûtes, au mont de l'Éternel et vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, et l'on verra son bras s'abattre dans le déchaînement de sa colère, et dans l'embrasement de son feu qui consume, du sein de la tornade, de la tempête et de la grêle. Car l'Assyrie tremblera en entendant la voix de l'Éternel lorsqu'il le frappera de son bâton, et l'Éternel lui-même combattra contre lui par des coups redoublés. Déjà, depuis longtemps, le bûcher est dressé, il est prêt aussi pour le roi d'Assyrie. Il est profond et large, le bois est empilé en quantité, le feu est prêt, et le souffle de l'Éternel comme un torrent de soufre l'embrasera. Ésaïe 30, les versets 27 à 33. Au tableau précédent du salut final d'Israël, répond celui du jugement de la Syrie qui représente aussi l'ensemble du monde païen. Ésaïe évoque ici encore la prochaine invasion du pays, mais aussi la délivrance miraculeuse de Jérusalem. Israël sera sauvé par l'ange exterminateur qui frappera les Assyriens, tout comme il avait fait périr les premiers-nés égyptiens. Ce châtiment sera si sévère qu'il rappellera les villes de Sodome et Gomorre qui furent détruites par une pluie de soufre. L'intervention divine est tellement certaine qu'un bûcher est déjà prêt pour brûler les dépouilles des soldats tués par l'ange de l'Éternel. Il se trouve dans la vallée de Ben-Hinnom, au sud de Jérusalem, un endroit sinistre où les rois idolâtres y sacrifiaient des enfants par le feu du dieu Moloch. Plus tard, ce lieu est appelé Géhenne et devient la décharge de la ville. Un feu y brûle en permanence, de sorte que l'endroit symbolise l'enfer et plus exactement les temps de feu. Dans cette prophétie, le roi assyrien Sennachérib représente aussi la bête, l'antichrist et derrière lui Satan, qui seront tous condamnés. Dans le livre de l'Apocalypse de Jean, on lit: alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, et il rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Apocalypse 20, verset 10. après avoir été miraculeusement délivré de la Syrie. Israël entonnera les cantiques d'action de grâce qui se chantaient lorsque le peuple se rendait au temple en procession. À l'occasion des grandes fêtes religieuses, quand on y réfléchit, et tout compte fait, il n'existe que deux camps, celui de Dieu et l'autre. Choisissons donc le bon.